France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Je suis Leonard Slatkin. Je suis né en Los Angeles en 1944 et je suis un chef d'orchestre, compositeur et auteur.
Leonard Slatkin, vous débutez votre dernier ouvrage « Leading Tones » par la phrase suivante. « Vous ne savez jamais dans quelle direction votre vie va vous mener. Nous la commençons avec des rêves et si nous avons de la chance, quelques-uns d'entre eux se réaliseront. » Quels étaient donc vos rêves d'enfant, Leonard Slatkin, et lesquels sont devenus réalité ?
My entire family were musicians.
Tout le monde dans ma famille était musicien. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait que deux sujets de conversation à table. La musique et le baseball. Je n'étais pas particulièrement sportif lorsque j'étais jeune, mais je rêvais néanmoins de devenir présentateur de baseball. Étant donné que je n'en étais pas vraiment capable, à la place, j'ai décidé de faire comme les autres membres de ma famille. C'est difficile d'imaginer autre chose que la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je n'étais pas certain comment m'y prendre. Peut-être que j'allais être instrumentiste, compositeur, peut-être producteur. Mais en tout état de cause, moi-même et tout le monde savait dès le début pratiquement que j'allais devenir musicien. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que mon rêve s'est réalisé.
Vous avez été également pianiste au début de votre enfance. Est-ce que c'était facile pour vous, par exemple, de devoir quitter les jeux avec vos camarades pour pouvoir s'entraîner au piano?
À vrai dire, je me suis mis d'abord au violon quand j'avais 3 ans. Mais je savais que je ne serais pas aussi bon violoniste que mon père. Donc j'ai abandonné le violon pour me mettre au piano. Et là, c'était avec mon oncle. Mais je savais que je n'allais pas être aussi bon que mon oncle, donc j'ai abandonné le piano. Par la suite, je me suis mis à l'alto, parce que personne dans ma famille ne jouait de l'alto. Moi, j'étais mauvais. Puis, je suis devenu élève compositeur. Et là, j'ai commencé à trouver ma voix, V-O-I-X. Bien qu'élève à l'école publique, qui n'est pas terrible aux États-Unis, vous le savez, j'étais entouré de gens qui adoraient la musique, mais de façon très différente. Les élèves de mon école s'intéressaient à une grande diversité de choses. Et nous avions beaucoup en commun, bien que nous soyons issus d'origines différentes. Nos origines économiques, ethniques étaient différentes. Mais malgré tout cela, nous aimions tous la musique, mais sous des formes différentes. Le jazz, le rock'n'roll, le blues, la musique classique. Pratiquement toutes ces musiques étaient une partie intégrante de ma vie quand j'étais jeune. Donc, contrairement à de nombreux jeunes, je ne me sentais pas séparé de mes amis écoliers. Nous étions au contraire reliés par la musique.
votre père, Leonard Zlatkin, était chef d'orchestre et il travaillait aussi pour la radio.
Oui. My father had very short life. He died when he was 47.
Mon père est décédé à l'âge de 47 ans, mais au cours de sa courte vie, il a pu faire de nombreuses choses. Il est né à Saint-Louis et à l'âge de 16 ans, il est parti étudier à l'école Curtis, l'école de musique à Philadelphie, avec le grand pédagogue Alfred Zimbaliste, mais il étudiait aussi pour être chef d'orchestre auprès de Fritz Reiner. Il y a passé 3 ans dans cette école. Il est revenu à Saint-Louis comme assistant du premier violon. Il avait 19 ans. 3 ans plus tard, il est allé voir le chef d'orchestre, Vladimir Goldschwan, et a demandé une augmentation de $5. Goldschwan l'a refusé. Et mon père est parti. Il est parti pour Los Angeles, et là, ça s'est passé fort bien pour lui. Cela, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la guerre a éclaté, le gouvernement des États-Unis a lancé un programme visant à protéger certains musiciens pour qu'ils n'aillent pas au front. En effet, le gouvernement pensait que l'art à l'époque allait être plus utile aux États-Unis. Ainsi, plusieurs orchestres ont été créés aux États-Unis. Il y en avait un près de Los Angeles, à Santa Ana. Mon père était l'un des deux premiers violons. Mais les concerts étaient diffusés à la radio pour les militaires en Europe ou en Asie. Et ils jouaient également dans le cadre de concerts pour des familles aux États-Unis. Par ailleurs, mon père a lancé sa carrière comme chef d'orchestre dans ce même orchestre. Et là aussi, il y a eu beaucoup de radiodiffusion. Puis on arrive à la fin de la guerre, il est revenu, il a rencontré ma mère au Hollywood Bowl dans le cadre d'un concours de musique. Ils se sont mariés et quelques années plus tard, ils ont créé la moitié du Hollywood String Quartet. En même temps, ils commençaient à se faire un nom dans le cinéma. Mon père était le premier violon à la Fox et ma mère était la première violoncelliste chez Warner. Son frère, mon oncle, Victor Heller, était le pianiste de la Warner. Donc si vous avez vu des films de 1938 à 1956 de la Fox, et s'il y a un solo de violon, c'est mon père, si c'est un film de Warner, et s'il y a un solo de violoncelle, c'est ma mère, et si c'est un solo de piano, c'est mon oncle.
Leonard Zlatkin, vous aviez toute une échelle de répertoire que vous avez entendu dans votre enfance, de la musique un peu légère à la musique symphonique et bien sûr au Hollywood String Quartet de vos parents. Est-ce que c'est le quatuor qui vous intéressait le plus à l'époque?
The first memory of any piece of music that I...
Mon premier souvenir de morceau de musique, c'est quelque chose d'inhabituel. La plupart des gens vont vous dire la cinquième de Beethoven, Brahms, Schubert. Non, pour moi, c'était le quatuor numéro 6 de Villa-Lobos. Je me souviens de ce morceau parfaitement, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'était mon premier grand souvenir. Vraisemblablement parce que chaque soir, on dînait à 18h, mes parents rentraient du studio vers 17h, on dînait ensemble, puis à 19h, les deux autres membres du Hollywood String Quartet arrivaient chez nous et il y avait une répétition qui durait 3 heures. Évidemment, moi, il fallait que je me couche. Et bien souvent, je m'endormais dans l'escalier avant de monter à ma chambre et j'entendais le Hollywood String Quartet qui jouait chez moi. Mais le fait de pouvoir entendre ces chefs-d'œuvre de Beethoven, de Brahms, de Bartok, de Dvorak, de Schubert, dès ma tendre enfance, c'était bien trop sophistiqué pour moi. Je ne comprenais pas tout, mais il y avait quelque chose dans cette musique qui était formidable. Mais encore plus important, j'ai pu entendre le son du Hollywood String Quartet et c'est rentré dans mon âme et c'est rentré dans mon esprit. Donc c'était une combinaison d'artistes russes, mais d'Hollywood aussi. Donc il y avait un mélange dans ce quatuor. Quand on écoute le Hollywood String Quartet, on entend une approche tout à fait différente de la musique de chambre et des quatuors à cordes habituels. L'autre grand quatuor aux États-Unis à l'époque, c'était le quatuor Juilliard à New York. Si vous écoutez le même morceau joué par les deux quatuors, eh bien là, on entend des choses complètement différentes. Le quatuor Juilliard était renommé pour sa précision, pour son objectivité, alors que le Hollywood String Quartet, lui, était un quatuor qui semblait improviser. Bien sûr, il n'improvisait pas, il travaillait très dur. Mais il donnait l'impression que tout était spontané, quatre amis qui jouaient entre eux. Donc, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était la partie la plus importante de mon éducation musicale.
Les grands entretiens de Leonard Slatkin, France Musique.
Because my parents had this three-part life.
Étant donné que mes parents travaillaient au cinéma, ils faisaient de la musique populaire et ils travaillaient dans la musique classique, et parce qu'ils faisaient partie de l'élite des musiciens de Hollywood, tout le monde venait chez nous pour parler de projets, ou alors simplement pour faire de la musique, ou simplement pour venir dîner, parce que notre table était formidable, on avait de très bonnes cuisinières. Nous n'étions pas riches, hein, mais étant donné que mes parents étaient extrêmement absents, mon frère et moi avions besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous. Et mon père insistait pour que ces personnes sachent bien faire la cuisine, d'où mon embonpoint. Donc, j'ai rencontré ces gens-là chez moi, je les rencontrais à Hollywood aussi, je les voyais dans les studios d'enregistrement, et bien entendu, je les voyais au concert. Dans l'univers du classique, lorsque mes parents jouaient des morceaux de compositeurs contemporains, s'ils étaient aux États-Unis à l'époque, ils venaient chez nous. Donc, il y a Stravinsky qui est venu chez nous, Hindemith aussi. Villa-Lobos, Walton, et bien souvent, Les compositeurs se mettaient au piano et ils jouaient pour montrer leurs dernières compositions, ou parfois même ils jouaient de la musique avec mes parents. Parfois, il y a d'autres gens qui venaient. S'agissant de l'univers du cinéma, les musiciens que je voyais le plus souvent chez moi, c'était ceux de la Fox et de Warner. Mais Korngold, je ne l'ai pas rencontré. Il a vécu à Hollywood jusque dans les années 50, mais je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Et j'en suis d'ailleurs assez triste, particulièrement parce que Korngold a joué un rôle très important dans la vie de ma mère. La dernière partition qu'il a écrite pour Warner, c'était pour un film qui s'appelait Deception avec Bette Davis et Claude Rains. Et c'est un assez bon film, je vous le recommande. Ce film portait sur la vie d'un chef d'orchestre, d'une violoncelliste et d'un homme de la haute société. À la fin, il y avait la performance d'un concerto pour violoncelle, composé par un personnage de fiction. Mais tout le travail de violoncelle est réalisé par ma mère. Korngold a donc écrit un concerto pour les besoins du film, puis il en a fait une version plus longue et plus ample, et ce concerto a été joué en concert. Donc ma mère a joué aussi bien pour le film que pour la première du concert. Le film date de 1947, je n'avais que 3 ans, donc je n'ai pas connu Korngold. Max Steiner, le compositeur d'Autant n'emporte le vent, et Korngold se détestaient. Ils ne s'appréciaient vraiment pas. Mais un jour, ils étaient ensemble, et Steiner dit à Korngold,
«
Dites-moi, Eric, pourquoi votre musique empire et pourquoi la mienne s'améliore ?» Et Korngold répond, « Oh, bah, c'est très simple, Max. Moi, je copie votre musique et vous copiez la mienne. » Voilà l'ambiance d'Hollywood. Il y avait cette compétition, mais il y avait aussi ces fortes personnalités dans le monde de la musique. Il y avait Alfred Newman, Dimitri Tiomkin, Bernstein, Jerry Goldstein, John Williams, tous ces gens-là. Donc c'était une tradition très riche de musiciens classiques qui avaient choisi de se lancer dans le cinéma. Mon professeur de composition était un compositeur qui s'appelait Mario Castelnuovo Tedesco. Lui, il a écrit des partitions pour plus d'une centaine de films, mais généralement il ne les signait pas. Mais il a donné des cours à tous les grands compositeurs qui ont fait des musiques de films. Donc moi j'ai étudié à ses côtés, donc j'ai eu une certaine formation dans ce domaine, mais on ne pense pas que la musique de film c'était très sérieux. Prenez Miklos Rossa, il écrivait aussi facilement la partition pour Le Cid qu'une symphonie concertante pour Heifetz et Piatigorsky. C'était comme ça à l'époque. On ne pensait pas que la musique de film pouvait être différente. De même, la danse classique n'est pas différente. L'opéra n'est pas différent non plus. C'est Duke Ellington qui a tout résumé. La musique est soit bonne, soit mauvaise. Peu importe la catégorie. Donc, cette jeunesse auprès des compositeurs de musique de film était telle que je ne les considérais pas comme différents d'un Stravinsky, d'un Hindemith ou d'un Bartok. Tout était pareil pour moi.
Vous avez souligné l'importance pour vous de l'écoute de tout ce qui se passait dans la maison de vos parents. Vous êtes quand même devenu assez rapidement, Leonard Zlatkin, un membre de l'orchestre symphonique des jeunes de Californie, qui était dirigé par un chef d'orchestre russe, Peter Merenblum.
The conductor, Peter Merenblum.
Le chef d'orchestre russe Peter Merenblum était un expert pour travailler avec les jeunes. Et il était typiquement russe et typique de cette génération. Donc, c'était toujours « peut faire mieux ». Par contre, si c'était bien, il ne disait rien. Il ne se plaignait que lorsque les choses n'étaient pas parfaites. À ce moment-là, il criait, il nous disait que nous étions des idiots et qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. J'étais d'une certaine origine russe par ma famille, donc j'étais habitué à ça. Mais j'ai adoré cette époque. Et c'est vraisemblablement ce qui a fait de moi un chef d'orchestre. Parce qu'un jour, lors d'une répétition, j'avais 16 ans, Peter Merenblum doit aller répondre au téléphone, puis il me regarde et il me dit
« Zlatkin,
voudriez-vous prendre la baguette ?» Moi, je l'ai regardé et j'ai dit « Oui ». Il a pris la partition, c'était l'ouverture des noces de Figaro, et il me l'a jeté à la figure. Je me suis levé, j'ai pris la partition et j'étais le chef d'orchestre pour l'ouverture des Noces de Figaro. Et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais être chef d'orchestre.
Ouverture des noces de Figaro de Mozart par l'orchestre de Cleveland, direction George Sell. Demain, dans le deuxième épisode de ces grands entretiens, Leonard Zlatkin nous dira son amour du média radio et nous parlera de cette année 1963 où sa vie a basculé après la mort de son père. Merci à Pierrick Charles, Olivier Dupré, Flora Stanadel, Xavier Combe à la traduction, Gilles Blanchard et Perrine Mingui à la réalisation. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur francemusique.fr et je vous dis à demain pour le deuxième épisode.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.